Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Nouvelle série, c'est vrai qu'on est jeudi, mais on la commence seulement maintenant. Une série évidemment un peu écourtée pour cause de mouvement social ici à Radio France. Eh bien, on va s'intéresser aux enjeux du climat, alors que la COP25 s'est ouverte la semaine dernière à Madrid. On avait prévu de parler du verdissement du secteur des transports, de celui de l'énergie, des financements. On a choisi du coup de se pencher sur les principaux enjeux de cette conférence des parties. COP25, dernière négociation avant engagement, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
D'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons sur l'une des deux voies suivantes. La voie de la capitulation, où nous avons végété au-delà du point de non-retour, mettant en danger la santé et la sécurité de tous sur cette planète. Voulons-nous vraiment rester dans l'histoire comme la génération qui a fait l'autruche, qui flânait pendant que le monde brûlait ? L'autre option est la voie de l'espoir, la voie de la détermination, de solutions durables, la voie où davantage de combustibles fossiles restent là où ils devraient être, dans le sol, et avec la volonté de suivre la voie de la neutralité carbone d'ici 2050.
J'ai rejoint le mouvement en février et depuis on fait grève chaque mois. Ici à la COP25, j'attends des actions concrètes, mais d'après ce que je vois jusqu'à présent, ça ne va pas se produire. Il y a beaucoup de discussions sur des petits points très précis, c'est un peu du spectacle. Mais j'espère qu'on va avancer et traiter cette crise comme une crise. On ne va pas s'arrêter, on va être de plus en plus nombreux. La COP vient au Royaume-Uni l'année prochaine et la branche anglaise de notre mouvement sera mobilisée et fera pression.
Voilà, des manifestants qui doutent de l'action de la diplomatie climatique malgré les appels d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à l'ouverture de cette COP25. La décennie 2010-2020 sera la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Depuis la signature de l'accord de Paris en 2015, les émissions de gaz à effet de serre mondiaux ont augmenté de 4%. Entre-temps, les États-Unis ont annoncé leur retrait du texte. C'est donc dans ce contexte quelque peu décourageant que se déroule en ce moment à Madrid la COP25, au cours de laquelle devraient être fixées notamment les règles d'application de l'accord de Paris avant son entrée en vigueur l'année prochaine. Alors, où en sont les discussions? Va-t-on réussir à se mettre d'accord sur les modalités d'application de l'accord de Paris? Quels sont les obstacles à surmonter? Dans les équilibres rebattus depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, quels pays peuvent saisir l'occasion pour s'imposer comme leader? Quelle place pour la Chine? Quelle place pour l'Europe qui, avec une nouvelle commission, affiche des ambitions nouvelles en la matière? Et puis plus généralement, quel bilan faire finalement de ces grands sommets? Sont-ils le théâtre politique, diplomatique adéquat pour organiser la révolution verte? D'ailleurs, les États sont-ils les mieux placés pour relever le défi du dérèglement climatique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Ami Dahan. Bonjour.
Bonjour Florian.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Ami Dahan. Vous êtes historienne des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Je citerai notamment un ouvrage que vous aviez écrit avec Stéphane Écoute, « Gouverner le climat, quel futur possible ?» Point d'interrogation, c'était aux presses de Sciences Po. À vos côtés, Marc-Antoine Almazega. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Les auditeurs vous auront peut-être reconnu. On vous a invité la semaine dernière pour parler des conflits gaziers en Ukraine. Il se trouve que les questions de climat et de diplomatie climatique sont aussi l'une de vos spécialités, raison pour laquelle on vous a réinvité. Et j'en profite pour vous remercier l'un et l'autre parce qu'on a repoussé à plusieurs reprises cette émission pour pouvoir la faire enfin ce matin. Ami Dahan, les enjeux de cette COP25, parce que c'est vrai qu'on est dans un climat social un peu particulier ici en France. On parle et on comprend beaucoup de cette question des retraites et on ne parle très peu, voire quasiment pas, de cette COP25. Elle est importante, cette COP25, ou finalement on passe pas à côté de grand chose?
Cette COP25, vous savez bien qu'il y a des COP un peu de procédure et de routine qui préparent des moments plus importants. Je crois que, de fait, c'était quand même pas une COP décisive. En 2015, il y avait deux rendez-vous fixés importants, qui étaient 2020 et 2023, pour rehausser les ambitions, etc. Donc on avait quand même déjà programmé une certaine lenteur. Hein, ça, c'est toujours la marque de fabrique de ce processus. Sinon, entre 2015 et 2020, c'est le rule book, comme on dit, c'est-à-dire la mise en œuvre des choses qui permettront l'accord de Paris, il restait principalement dans ce rulebook qui avait été adopté à Katowice l'année dernière, un chapitre, si on peut dire, un article important dont on parlera peut-être, qui concerne un peu le marché du carbone, c'est l'article 6, enfin les mécanismes de marché nouveaux. Et sinon, vous savez, les COP, et ça, de ce point de vue-là, ça ne change jamais, ça reste quand même des rendez-vous où le sujet est à l'ordre du jour un peu général, et où on fait l'état des choses. Et là, il y a eu quand même des rapports, par exemple, scientifiques importants, à la fois du GIEC. Il s'est fait que cette année, le GIEC avait présenté deux rapports sur les sols et l'agriculture, d'une part, sur les océans, d'autre part, en cet été, et puis le début de l'automne. Et donc, voilà, on en reparle. Mmh. Et en particulier, celui sur les océans, c'est le thème, c'était un peu un des thèmes choisis par le Chili, quand c'était le Chili qui devait accueillir.
Oui, parce que rappelons que ça aurait dû être le Chili. Exactement. Et pour les raisons de contestation aussi sociale qui agite le pays, Absolument. On a finalement transféré la chose du côté de l'Espagne. C'est dire si le climat général social, lui, est agité. Marc-Antoine Aymasega, on va évoquer évidemment le fameux article 6 évoqué par Amidan, parce que c'est effectivement l'un des enjeux de cette COP25, mais c'est vrai que l'essentiel, c'est l'année prochaine, l'essentiel, c'est lorsque les États vont devoir rehausser leurs ambitions à la hausse, et ça, c'est l'année prochaine qu'on le décide.
Alors, ça se décidera l'année prochaine, mais je crois que effectivement chaque COP, depuis 2015, est en réalité l'occasion de montrer à quel point l'urgence du changement climatique, des destructions environnementales se précise, s'accélère, et puis surtout à quel point l'inaction des États perdure. Et cette COP n'y échappe pas, puisque nous savons, suite à un rapport des Nations Unies, que nous devons faire baisser annuellement de 7,6% les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030 pour être dans une trajectoire de 1,5 degré.
Celle qu'on avait prévue à l'accord de Paris.
C'était si possible.
Si possible. Or, nous savons, par contre, depuis l'accord de Paris, que un monde à 2 degrés est un monde très dangereux, très instable, où beaucoup de populations, de pays, etc., vont être très sévèrement affectées. Donc, nous savons que, en réalité, c'est 1,5 degré qu'il faut viser. Mais, vous l'avez rappelé, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de croître. Encore cette année, probablement, aux alentours de... on sera un peu en dessous de 2%, mais enfin, on est donc très loin d'avoir amorcé ce déclin des émissions et d'être dans cette trajectoire d'1,5.
On n'est pas du tout, Amidan, dans les clous qu'on avait prévus dans l'accord de Paris.
Absolument pas. Je vous dis, on pensait commencer que le pic des émissions serait là, mais qu'on descendrait beaucoup plus rapidement pour effectivement arriver à une baisse de 40% en 2030 et si possible, zéro émission en 2050. Or, nous n'arrêtons pas d'augmenter, comme l'a dit Alexandre. Nous sommes à 2 à 2,5% de plus chaque année. On n'est pas dans les clous du tout.
Il n'y a aucun pays du G20 qui n'est aligné justement sur les engagements qui avaient été pris à l'accord de Paris. Et le G20, c'est 78% des émissions globales. C'est dire si on est très très loin du compte. Oui. Amidan, vous avez évoqué cette question de l'article 6 qui est censé établir les nouvelles règles du système de compensation carbone, le fameux futur marché carbone qui va permettre d'acheter et de vendre des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de CO2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que pourrait être ce nouveau marché et ce qui pose problème aujourd'hui pour le mettre en place, Amidan ?
Disons rapidement déjà que cet article 6, cette nouvelle disposition, elle est à la fois pour ses adeptes, c'est un chemin, pour accroître l'ambition et faire baisser les coûts, en engageant la finance, le secteur industriel, privé, etc., et les technologies dans cette marche. Et pour les critiques, dont malheureusement je suis, il va fatalement minorer l'ambition et les efforts, alors qu'il y a, comme on l'a dit, une évidence de l'urgence. Alors pourquoi ? Alors il s'agit évidemment de mécanismes qui sont séparés vers des objectifs climatiques précis. Alors c'est quoi ? Il y a trois mécanismes dans cet article, deux qui sont basés sur le marché, et un troisième plus général qui concerne, disons, plus l'aide au développement ou des choses comme ça. Et le premier
mécanisme... Vous parlez du mécanisme dit de Varsovie des pertes et dommages.
Oui.
Voilà, on y reviendra.
Voilà, on en reparlera. Donc le premier mécanisme de cet article 6, là, qui est dans l'article, enfin la linéa 6.2, ça permet, si vous voulez, à un pays qui a dépassé ses objectifs, de vendre son surplus, c'est toujours la même idée, à un pays qui, lui, est en dessous. Alors le dépassement, c'est pas forcément en réduction d'émissions. Ça peut être en construction de parcs d'énergie renouvelable, en développement de forêts, etc. Et donc à ce moment-là, ça c'est le premier. Et le second mécanisme, qui est lié d'ailleurs, ça créerait un nouveau marché international du carbone qui prendrait d'une certaine façon gouverné par l'ONU. Et qui prendrait la suite, si l'on veut, du premier marché qui avait été créé sous les auspices du protocole de Kyoto. Ouais. Et donc, un des enjeux très importants qui est discuté et qui fait l'objet de grandes controverses et de tensions internationales entre différents groupes de pays, on va le voir, c'est que, alors, dans ce marché, c'est les crédits carbone qui peuvent être, par exemple, générés par une nouvelle centrale d'énergie renouvelable ou quelque chose comme ça, ou un dispositif de captage du carbone, par exemple, peut être vendu ou peut être monnayé vis-à-vis d'autres pays qui n'ont pas, fait ça. Alors, la question est de savoir si ce nouveau marché, comment il va être articulé à l'ancien, qui était déjà extrêmement modeste, qui a donné des résultats pratiquement voilà. Mais il y a quand même quelques pays comme le Brésil ou l'Inde qui accueillent un certain nombre de ces projets, qui veulent eux que ces petits acquis qu'ils ont soient incorporés dans le nouveau marché et leur permettent finalement de se dédouaner totalement de nouveaux efforts.
Et c'est-à-dire qu'il plaide pour une sorte de double comptage. On compterait deux fois les émissions de gaz à effet de serre.
Exactement.
Marc-Antoine Aymasega, sur cette difficulté à faire émerger un nouveau marché carbone qui vient se superposer au premier, qui déjà, lui, n'était pas extrêmement satisfaisant.
Absolument. Il faut bien voir... que dans le monde aujourd'hui, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de marchés du carbone. Mais parmi ces marchés du carbone, en réalité, il n'y en a qu'un qui fonctionne vraiment, c'est celui de l'Union européenne. Et il s'est mis à fonctionner l'année dernière. C'est dire on est très 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 loin du compte. En réalité, évidemment, d'un point de vue idéal, il faudrait un marché du carbone mondial, au moins au sein du G20. Ça serait le plus efficace. Le G20, c'est, vous l'avez dit, jusqu'à 80% des émissions. Mais en réalité, il y a tout un tas de petits marchés, mais où les prix du carbone s'échangent sous 5 euros ou 5 dollars la tonne de CO2. C'est ce qu'on avait dans l'Union européenne il y a encore quelques années, mais entre-temps, on a dépassé les 25 euros la tonne. Et en réalité, pourquoi est-ce que les États, finalement, sont si réticents ou si fébriles ? C'est parce que très clairement, en réalité, cela vient handicaper leur compétitivité, cela vient nuire à leurs industries, à leurs économies, alors que nous sommes dans une phase de ralentissement de l'économie mondiale, de tension.
Mais est-ce que c'est efficace s'agissant des émissions de gaz à effet de serre ? Vous dites, regardons sur l'Union européenne, c'est en réalité en place depuis l'année dernière. Est-ce qu'on sent déjà les effets ? Est-ce que ça nous permet d'entrevoir qu'effectivement, il va y avoir une baisse des émissions de gaz à effet de serre ? C'est un bon outil, oui ou non ?
Oui, c'est un outil absolument indispensable, mais qui doit encore davantage évoluer. Le prix de 25 doit continuer de monter, et pour faire continuer ce prix, il faudra au moins arriver à 50 euros la tonne, 60 euros la tonne, aux alentours de 2030, bien sûr. Et oui, ça marche. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est que cette année, en Allemagne, il y a eu beaucoup moins de production d'électricité au charbon, tout simplement parce que, à cause de ce prix du carbone en Europe qui était beaucoup plus élevé, eh bien, ce n'était plus rentable de faire tourner un certain nombre de centrales. Et donc, les opérateurs ont fait davantage tourner les centrales à gaz. Alors, ce n'est pas idéal, mais c'est évidemment beaucoup mieux.
C'est moins
évident. Amida, on a envie de se réjouir, sauf que quand j'entends 2030, ça sera vraiment efficace en 2030, puisque le prix sera suffisant pour ce qui est de l'Europe, sachant que pour le reste du monde, on n'y est pas. À quelle échéance on va pouvoir avoir un marché carbone efficace au niveau mondial ?
Non, mais on sait très bien que le marché carbone, je suis d'accord avec Alexandre, abstraitement, ça peut être très efficace. Maintenant, on est inscrit dans des conditions politiques données. Et donc, c'est vrai que même en Europe, et on l'a vu avec l'histoire des Gilets jaunes l'année dernière, etc., il faut que le mécanisme de taxation du carbone s'inscrive dans un ensemble politique cohérent. Et donc, ça peut venir, ça peut être très mal accepté à la fois par les populations ou les industriels. Pour des raisons de justice sociale, etc. Donc, il faut que des États ou des gouvernements inscrivent cela dans une vision cohérente de considérer l'enjeu climatique comme un enjeu premier qui est à articuler étroitement avec les autres enjeux de gouvernance. Ouais. Moi, je suis frappée du fait que aujourd'hui, même dans la discussion sur les retraites, on se dit, les gens discutent, etc. Est-ce qu'ils vont partir à 64 ou à 62 ans? Dans 30 ans. Mais dans 30 ans, peut-être que la situation en France, avec les dégâts climatiques et les problèmes qu'il y aura, mais elle sera terrible. Donc, je pense qu'on ne peut pas imaginer traiter les questions en les dissociant totalement.
Amidaan. La question des États-Unis et du retrait du texte américain, c'était une promesse de campagne. Donald Trump est allé tout jusqu'au bout. Il a engagé ce retrait de l'accord de Paris. Alors, il n'est pas encore tout à fait effectif en réalité. Il le sera seulement à partir de l'année prochaine. Mais est-ce qu'on en sent déjà les effets? Pas seulement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je veux dire, est-ce qu'on en a ressenti les effets politiques, diplomatiques? Est-ce que le fait que les États-Unis sortent de ce texte, on a d'autres pays qui derrière ont suivi les États-Unis et se sont dit, mais puisque Washington sort de tout ça, pourquoi est-ce que nous, on continuera à faire des efforts? Ou est-ce que finalement, les effets sont assez modestes?
Je vais vous dire une chose. On a souvent déjà ici discuté de cette question générale, de ce processus. C'est-à-dire que les États-Unis sont sortis. Ou sont en voie de sortir. Mais de toute façon, ça fait déjà un certain temps qu'ils ne faisaient pas un effort énorme au niveau de l'État fédéral pour encourager des solutions alternatives, promouvoir d'autres énergies, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est en droite ligne de ce qu'il y avait avant. Et puis, je dirais, peut-être que ça vous paraîtra scandaleux, mais même avec les démocrates, finalement, quand on avait bien vu ça à Copenhague avec Obama, c'est-à-dire il n'est pas question que les États-Unis se handicapent leur position dans la compétitivité internationale si les autres pays ne le sont pas, et en particulier, bien sûr, la Chine. Donc, ce qu'on voit, à mon avis, c'est que la Chine, qui, au moment de l'accord de Paris, après l'accord de Paris, se projetait comme leader de ce processus. Elle voulait prendre le leadership de ce processus. Depuis, on l'entend plus sur ce sujet. On l'entend plus. Même dans les COP, elle est très discrète. Pourquoi? Parce qu'elle a d'autres chats à fouetter, ça c'est clair. Il y a le problème de la démocratie, Hong Kong et d'autres. Et puis, de fait, y compris dans son espace intérieur, elle gère d'autres priorités. La lutte contre la pollution des villes, ça c'est important, parce que évidemment les populations sont particulièrement sensibilisées à ce problème. Et puis
Que la question de l'environnement, de l'écologie, est un domaine dans lequel, en Chine, on peut contester l'ordre.
C'est ça.
C'est pas toujours le cas. Si par exemple on vous parlait de droits de l'homme, par exemple, c'est impossible. Revanche, l'environnement, l'écologie, c'est un domaine dans lequel on conteste. Donc ça veut dire que c'est aussi un domaine qui est une menace pour le.
C'est sûr, mais c'est plus environnement et pollution que directement changement climatique.
Ouais.
Parce que les populations, c'est toujours pareil, elles ne sont pas directement, conscientisées par le problème du changement climatique en soi. C'est abstrait, encore ça le soit de moins en moins. C'est évidemment, avec tout ce qui se passe, il est évident que, par exemple, la question des feux qui s'est développée en 2 ans, mais à un rythme incroyable. Là, vous avez remarqué ce qui s'est passé en Australie dans les dernières semaines. C'est vraiment effrayant. Et c'est pas la première fois. Et il y avait eu la Californie l'année dernière. Et il y a eu la Russie il y a 3 ans, etc. 3-4 ans. Donc, voilà, c'est ça les dégâts. Bon, en Chine, il n'y a pas eu encore exactement ça. Alors, eux, voilà, ils s'occupent plutôt de pollution des villes. Ils essayent de colmater là-dessus. Donc, ils font des choses qui les intéressent du point de vue de l'économie, c'est-à-dire, effectivement, essayer, à la sortie des mines de charbon, de capter les émissions pour qu'il n'y ait pas trop de pollution de l'air. Mais pour le moment, bon, ils n'ont pas pris de façon générale, sur l'urbanisation des villes, etc., des voies directement affrontant la question du développement par rapport au changement climatique.
Marc-Antoine Aymazega, sur cette question à la fois de l'effet peut-être relativement modeste du retrait de l'administration américaine de l'accord de Paris, mais aussi peut-être sur le rendez-vous manqué par Pékin de ce leadership climatique. C'est vrai que lorsque Trump a annoncé le retrait de l'accord de Paris, on s'est dit voilà une opportunité. D'ailleurs, à la fois pour l'Europe et pour la Chine, pas seulement pour la Chine, mais clairement aussi pour la Chine. Et d'ailleurs, elle l'avait affiché comme telle. Xi Jinping avait été très clair là-dessus. On va soutenir les efforts. On va, aux côtés de l'Europe, prendre le leadership. Il l'avait dit comme ça, de cette diplomatie climatique. Ça a fait pchit. Alors, comme avait dit l'autre.
Oui, il faut se rappeler que si la présidence française en 2015 avait pu mettre en musique cet accord de Paris, c'était parce que l'année d'avant, le président Obama et le président Xi s'étaient mis d'accord. Les deux plus grands émetteurs historiques et les plus grands émetteurs en volume se mettaient d'accord pour réduire leurs émissions. Donc c'était absolument historique. Ce qui s'est passé depuis avec les États-Unis, je souhaiterais un peu nuancer ce qui s'est dit. La première chose, c'est qu'évidemment, d'un point de vue multilatéral, la sortie de l'accord de Paris par Trump est absolument désastreuse. C'est-à-dire que tout un tas de pays réticents, comme le Brésil, l'Arabie Saoudite, les Russes, tous ces pays-là, finalement, se sentent confortés dans leur position et, je dirais, ressentent beaucoup moins de pression diplomatique qu'avant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même voir deux éléments sur les États-Unis. C'est que la première, vous avez tout un tas de villes, de grandes entreprises et surtout d'États fédérés extrêmement puissants, extrêmement émetteurs, qui, eux, restent alignés sur l'accord de Paris et qui ont des politiques énergétiques et climatiques extrêmement ambitieuses. Et le bilan dans l'ensemble, c'est que les émissions de gaz à effet de serre américaines reculent légèrement, avec une exception l'année dernière, mais cette année, il y a encore une légère baisse. Mais le problème aussi de Trump, c'est que Trump démantèle tout un tas de régulations environnementales, notamment sur les émissions de méthane liées à l'industrie pétrogazière. Et les émissions de méthane, sur une période de 20 ans, ont une puissance de réchauffement largement supérieure au CO2. Donc ça, c'est absolument désastreux. Mais il y a un autre élément aux États-Unis qui est très puissant, c'est le marché. Le marché fait que le charbon, pour produire de l'électricité, n'est plus compétitif. Et les renouvelables, notamment le solaire et éolien, le sont beaucoup plus, mais aussi le gaz. Sur la Chine, il y a là un grand problème, c'est que évidemment, avec les tensions commerciales, la rivalité stratégique avec les États-Unis et le ralentissement de l'économie chinoise, eh bien, les autorités chinoises, évidemment, ont d'autres priorités, ça a été dit, mais surtout, il y a une urgence économique et sociale en Chine qui fait qu'il y a certains qui poussent très fort pour que l'on remette en selle le charbon dans la production d'électricité et pour que l'on ait comme priorité la sécurité énergétique et économique, au détriment, évidemment, de poursuivre les investissements dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique.
Est-ce que ça veut dire, Marc-Antoine Aymazega, que les engagements qui avaient été pris par la Chine, et pas dans des cadres internationaux, onusiens, dans des cadres purement nationaux. On se souvient, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, Pékin avait annoncé qu'elle s'engageait à atteindre un pic d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, en disant qu'après, on va décliner. Est-ce que compte tenu de ce que vous nous dites, on peut d'ores et déjà penser que cet engagement-là de Pékin, il faut l'oublier ?
Non, c'est encore trop tôt pour le dire. Et pour bien reprendre finalement l'essence de ce conflit, on va dire, entre les États-Unis et la Chine, et puis d'une manière générale sur la question de la justice climatique. Les États-Unis, par tête, oui, par habitant, émettent deux fois plus. Donc un Américain émet deux fois plus qu'un Chinois. Et donc les Chinois disent, nous, on va se développer. Un Américain émet sept fois plus qu'un Indien. Et donc, ces pays-là disent, nous, on va se développer, mais bien sûr, à un moment, nos émissions vont atteindre un pic. Et le vrai problème, c'est que le plus grand émetteur historique est par tête, ou l'un des plus grands par tête, et bien lui, finalement, n'a pas pour priorité de réduire ses émissions. Donc, c'est encore plus difficile, évidemment, de demander à la Chine, dont la population veut se développer, de le faire. Mais enfin, les Chinois font quand même des efforts et tout va se décider l'année prochaine.
Vous répondez pas à la question, est-ce qu'ils vont tenir l'engagement qu'ils ont pris sur 2030?
On n'en sait absolument rien. Sur la question des États-Unis, il faut voir qu'effectivement, ils ont un petit peu baissé. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils utilisent, ils ont développé terriblement le gaz de schiste. C'est-à-dire, c'est la révolution des gaz de schiste qui, aux États-Unis, a fait un peu reculer le charbon. Effectivement. Mais on peut pas dire que les gaz de schiste, c'est quand même une source renouvelable. Hein, c'est d'un point de vue environnemental, on sait très bien que c'est extrêmement désastreux. Tout ce que ça fait, ça provoque dans les sols, la géologie, les tremblements, etc. Et puis c'est polluant. C'est polluant. C'est un peu moins polluant que le charbon direct, mais c'est polluant. Donc on s'oriente pas. En ce qui concerne les engagements que la Chine a pris pour 2030, qui était effectivement baisser son intensité énergétique jusqu'à la stabiliser et commencer à baisser en 2030, franchement, là pour le moment, on n'en sait rien. Mmh. On n'en sait absolument rien. Et donc elle a pris le de repartir au charbon, mais elle n'a jamais arrêté le charbon. Elle a absolument jamais arrêté le charbon. Simplement, le charbon est la source majeure dont elle dispose. Le reste, elle l'importe. Elle n'a pas de pétrole, etc. Donc on voit bien en Afrique et tout, on aura l'occasion d'en parler, elle est prédatrice de toutes ses sources. Et de façon très directe. Donc là, en ce qui concerne l'utilisation des centrales à charbon, bon, pour le moment, elle promet et elle le fait, elle le met en œuvre un peu d'essayer de faire une exploitation du charbon un petit peu moins sale que comme on le faisait au 19e siècle et comme elle le faisait il y a quelques décennies, c'est-à-dire en laissant tout à l'air libre. Bon, essayer de capter, c'est ça le projet. Et donc avec toutes ces perspectives de géo-ingénierie au sens de capter et injecter dans le sol, etc. Mais bon, elle le fait moyennement. Ça reste dans ses perspectives. Mais évidemment, ça ne nous assure en rien, étant donné la perspective de développement qu'elle a, de développement des villes, de déplacement des populations vers les villes pour accroître la consommation intérieure. Parce que c'est ça, la Chine. Elle veut accroître de façon massive sa consommation intérieure. Donc, déplacement des... Parce que c'est quand on est dans les villes qu'on consomme beaucoup. Dans les campagnes, on consomme beaucoup moins. Ça, il faut le dire. Et donc, voilà. Donc, elle n'arrête pas cette perspective-là.
Vous parlez de déplacement. Justement, il y a une chose quand même qu'a fait la Chine, c'est précisément de déplacer ces usines au charbon. Ouais, parce qu'effectivement, il y en a qui ont été fermées, d'autres ont été ouvertes, mais plus loin des villes. Alors, c'est des très bonnes nouvelles pour les personnes qui habitent dans les villes. En revanche, au global, ça ne change pas grand-chose.
Exactement. Et puis aussi, il faut dire, pour compléter aussi ce que a dit Marc-Antoine, je crois que je me trompe sur votre...
Non, Marc-Antoine, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai pas repris. Mais là, c'est bon. Moi. Marc-Antoine, vous êtes bien.
Un Chinois, maintenant... un Chinois émet plus qu'un Européen. Mmh. Ça, il faut quand même le dire.
Par
capita, oui. Mmh. Donc, c'est énorme. Maintenant, c'est énorme. On ne peut plus dire que la Chine est un pays comme ça, dans la catégorie des pays en développement. Hein, quand on voit ce ratio-là. Donc, nous, les Européens, on émet trop. Bien sûr, on a des perspectives de stabilisation. On va voir ce que va faire la nouvelle commissaire européenne, mais c'est pas le cas pour la Chine.
Vous me tendez la perche, la nouvelle commissaire européenne, justement Ursula von der Leyen, elle faisait un discours à l'ouverture de la COP25. Écoutez.
The new European Commission is in office since yesterday.
La nouvelle Commission européenne est constituée depuis hier. Dans 10 jours, la nouvelle Commission européenne présentera le Green Deal européen. Et si notre objectif commun est d'être un continent climatiquement neutre en 2050, nous devons agir maintenant. Nous devons mettre en œuvre les politiques maintenant parce qu'il s'agit d'une transition générationnelle que nous devons mettre en place.
Voilà, donc Marc-Antoine Almasega, on sent évidemment beaucoup de détermination, beaucoup de volontarisme, mais derrière, qu'y a-t-il ? Quelles sont les annonces qui ont été faites par la nouvelle Commission européenne ? On avait déjà quelques indices, on était censé avoir un plan beaucoup plus précis hier. J'ai pas eu l'impression que c'était beaucoup plus précis que ce qui avait été déjà présenté. Est-ce que vous pouvez nous d'abord donner votre impression générale sur les ambitions affichées de cette nouvelle Commission européenne ?
Nous sommes à un tournant dans nos politiques de l'énergie et du climat. Et ce qui se passe à Bruxelles marque une rupture absolument majeure. Le 14-15 décembre se réuniront les chefs d'État et de gouvernement des pays européens et devraient adopter l'objectif de neutralité carbone en 2050.
Si on arrive à se mettre d'accord, pour l'instant on est très loin du compte.
Non. En réalité, on est très proche du compte. On était très loin du compte il y a encore 6 mois. Et c'est ça, il s'est opéré une rupture absolument essentielle qui est liée à deux choses, qui est liée à la pression des citoyens et qui est liée au résultat des élections européennes et puis à l'urgence climatique que chacun vit maintenant désormais au quotidien. C'est plus quelque chose d'abstrait qu'on l'on voit à la télé, c'est chez soi, les agriculteurs, l'eau, etc. Et ce qui a été annoncé hier par Ursula von der Leyen, ce Green Deal européen, c'est une réponse à cette ambition-là, cette urgence climatique, et c'est une stratégie de croissance économique. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est relativement imprécise dans le sens où elle va devoir se décliner dans des plans d'action qui seront préparés et annoncés ultérieurement, mais qui a l'ambition finalement de nous faire accélérer dans notre transition.
J'entends Marc-Antoine Almasséga, mais pardon, précisément, il ne s'agit que d'annonces là. Il y a l'annonce sur la neutralité carbone d'ici 2050, il y a l'annonce de rehaussement des objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, on passerait de 40 à 50, voire même 55, mais derrière, on n'a rien. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'outil, il n'y a rien.
Absolument. Alors, c'est-à-dire que les plans, les outils vont arriver ultérieurement.
Il serait temps.
Absolument.
Elle est rentrée en fonction, là, hein, ça y est.
Bien sûr. Mais enfin, c'est des choses très complexes. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que le problème, c'est que vous avez une Commission européenne qui est extrêmement volontariste et en réalité des États membres qui, eux, traînent des pieds et dont les objectifs et les politiques actuelles ne permettent même pas de réaliser les objectifs que l'on s'était fixés avant pour 2030. Donc, bien sûr, il y a un énorme gouffre entre cette ambition, cette volonté et sa mise en œuvre. Mais on est dans la phase de mobilisation.
Ok, donc si je résume, rupture dans les discours, gouffre dans la réalité, Amidan.
Oui, je pense qu'il faut effectivement ne jamais oublier que la question du changement climatique, c'est avant tout aussi une question matérielle, concrète. Cette transition... et quand j'entends, elle nécessitera beaucoup de transformations concrètes des processus industriels, des façons de faire, des modes de production, de transport, etc. Donc ça, on le sait, mais on le sait abstraitement. On met pas vraiment ça en œuvre. On a bien vu comment on va voir. La batterie électrique ou les voitures électriques, on en parle depuis des années. Bon, les industriels, y compris allemands et avant tout allemands, ont freiné des cas de fer parce que ça ne leur convenait pas, parce que ça se vendait pas bien. On n'a pas préparé du tout les infrastructures de distribution de cette électricité de la recharge des voitures. Donc, ça se vend très mal, etc. Donc, quand est-ce que le tournant va être pris? Puis je crois, malgré tout, peut-être que je vais vous choquer, mais on ne peut pas avoir seulement un discours de croissance en disant qu'elle est verte. Parce qu'on voit bien, et tout le monde maintenant, si la commissaire européenne prend cette position, c'est effectivement, vous l'avez dit, à cause des élections européennes qui ont propulsé les Verts dans beaucoup de pays, y compris bien sûr en Allemagne, et dont il n'y a pas eu du tout encore de traduction politique propre dans aucun pays. Ni en Allemagne, dans la coalition, etc. Rien du tout. En France, non plus. Hein, rien du tout. Donc, voilà. Donc, on en parle parce que c'est quand même, on sait que ça a eu lieu, mais de fait, ça ne s'est pas traduit. Or, les mouvements de la société civile européenne et en particulier les mouvements de jeunesse qui s'impatientent face à l'inertie, eux, qu'est-ce qui pointe? Le fait qu'on ne pourra pas continuer comme avant. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas simplement dire croissance-consommation. Parce que croissance-consommation, qu'on le veuille ou pas, c'est contradictoire avec cette idée d'économie du matériel, des ressources, etc. Alors, je ne dis pas qu'on va prôner la décroissance généralisée demain. C'est pas du tout ça que je pense que ce ne serait pas accepté socialement. Donc, il faut penser des inflexions, penser des trajectoires.
Mais c'est le sens de l'histoire.
Mais c'est le sens de l'histoire, absolument.
Et peut-être que le magazine américain Time, justement, l'a bien vu, puisque hier, il a choisi comme personnalité de l'année 2019, vous l'avez vu, Greta Thunberg. Ce n'est peut-être pas complètement un hasard, le sens de l'histoire. Ça fait partie, évidemment, des choses que connaît bien le magazine Time. Marc-Antoine Heilmeissega, sur cette question européenne.
Alors,
cette question, en particulier, peut-être d'une rupture qui n'est pas encore là, celle de la décroissance, finalement. C'est le gros mot qu'il ne faut pas prononcer.
Oui, ou moi je dirais plutôt croissance durable et qualitative. Et ça, et en fait, ce qui est très intéressant quand on regarde les textes produits par cette nouvelle Commission européenne, eh bien finalement, elle est largement en avance sur tous nos États membres. Mais en réalité, tous les jalons, tous les piliers pour avancer vers cette transformation énergétique et économique sont posées dans cette stratégie du Green Deal.
Vous pensez à quoi en particulier?
Alors, je pense par exemple à une stratégie sur la finance, de mobilisation pour les investissements. Je pense à des éléments de stratégie sur l'économie circulaire. Je pense
sur
à
la finance stratégie... détaillée un peu par exemple.
Alors, dans un instant, à une stratégie industrielle pour les technologies bas carbone, à des fonds pour assurer la justice entre les populations, entre les territoires, pour en fait s'assurer que personne ne soit laissé de côté.
Détaillé, rentrer dans le concret. La question du financement, par exemple, qui est essentielle.
Alors, par exemple, sur la question du financement, un plan d'investissement massif est annoncé. C'est-à-dire qu'on va mobiliser des financements européens pour avoir un effet démultiplicateur sur les investissements privés. Et ça, c'est absolument essentiel pour accélérer. Et en réalité, on sait qu'il va falloir mobiliser à peu près 1,5% de PIB en plus tous les ans pour renforcer nos investissements.
Et on est sûr qu'on va investir sur des projets bas carbone. C'est pas de l'argent qu'on va investir dans le développement des énergies fossiles qui vont se retrouver dans les caisses de Total et compagnie.
Non, absolument.
On est sûr, d'accord.
Non,
non, on n'est pas sûr.
Ah,
on n'est pas sûr. On ne sait pas. Ah, on espère, mais on espère, je dirais. Bah, vous savez bien qu'il y a des tas de banques qui maintenant, effectivement, préparent pour leurs investisseurs, toutes les personnes qui ont des portefeuilles d'actions, etc., d'aller vers des portefeuilles développement durable, comme on dit, ou développement soutenable. Bon, d'accord, mais quelle est la commission, comment est contrôlée de façon transparente ces directions-là? Parce que on vous dit, certains pays sont aptes à entrer dans ces investissements et pas d'autres. Pourquoi, etc. Alors, les pays en développement, mais qui, on sait bien, parce que c'est malheureusement le cas, qu'il y a une corruption généralisée dans des tas de pays en développement. Et voilà, et ça apparaît tout le temps. Toute l'Amérique latine est concernée en ce moment par la contagion des problèmes qui sont apparus, démocratiques, etc. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des corruptions de classes politiques qui détournent, qui préfèrent ne pas protéger l'Amazonie, mais plutôt faire d'autres stratégies, etc. Donc, voilà, on n'est pas aujourd'hui encore avec des instances qui vont contrôler tout ça, et dans la mesure où il n'y a même pas l'énonciation d'un discours politique à ce propos-là. Parce qu'il y a des discours sur le Green Deal vert et sur l'investissement, machin, mais la transparence des processus, les directions concrètes où on va le faire, ça c'est... Voilà, ça c'est manque. Pas clair. Et puis d'autre part, par exemple, deux chapitres très importants dans les émissions qui sont l'aérien et le commerce maritime international, qui font chacun plus de 2,5% des émissions mondiales. Donc ça fait 5-6% en tout ça. Bon, ben là, c'est en dehors du truc.
Ouais. Marc-Antoine Heilmeissega, et puis ensuite, on s'intéressera un petit peu à l'Afrique. On va retrouver Aissatou Diouf par téléphone, qui est à Madrid, justement, à cette COP25.
Alors, il y a eu quand même une décision, par exemple, très concrète qui a été prise. C'est que la Banque européenne d'investissement, qui va de facto devenir la banque du climat dans l'Union européenne, à partir de la fin de l'année 2021, ne financera plus des énergies fossiles. Donc ça, c'est quand même très concret. Il y a un Parlement qui contrôle évidemment la mise en œuvre du budget européen. Il y a une Cour des comptes, etc. Donc non, il y a quand même des éléments de vérification. Et puis, il y a une classification des investissements verts qui est en train d'être finalisée.
Sur la Banque européenne, est-ce qu'on est bien d'accord, pardon de vous couper, que c'est pas une décision directe de la Commission?
Non, ce sont les actionnaires de la banque qui ont pris
donc
cette décision.
Pas, donc c'est pas une décision de la Commission, on est bien d'accord?
Oui, bien, mais la Commission l'a suivi d'une certaine façon. Oui, absolument. Clair. Mais ce qui est très intéressant aussi dans ce qui se passe à Bruxelles, c'est que au sein de cette nouvelle Commission, le vice-président Timmermans, qui est en charge de la mise en œuvre du Green Deal, lui est responsable des commissaires à l'énergie, au climat, à l'environnement, à l'agriculture et à la santé. Est-ce que vous connaissez un État membre qui a mis en place cette structure institutionnelle qui est la clé en réalité?
La structure ne sert à rien si, comme Amidaan le dit, on ne parle pas par exemple de la question du transport aérien.
Mais bien sûr, mais sans cette structure, vous n'y arrivez pas. C'est ça qui est absolument essentiel. Et sur le transport aérien, un des problèmes quand même majeurs, c'est que la fiscalité n'est une responsabilité des États membres. Ce n'est pas une responsabilité de la Commission. On ne peut pas lui en vouloir. C'est le problème des États membres. Et quand vous avez, par exemple, notre secrétaire d'État à l'énergie qui prend une décision sur l'interdiction des plastiques à usage unique à l'horizon 2040, on voit bien à chaque fois le gouffre entre l'urgence, les attentes et ce que mettent en œuvre nos dirigeants. Donc il y a un problème de leadership, mais à Bruxelles, les choses sont plutôt bien enclenchées. De ce point de vue.
Les choses sont calées du côté de Bruxelles, mais malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau des États membres.
Amidaan,
puis ensuite on accueille Assata Oudiouf. Je vous en prie.
Moi, j'ai été frappée, si vous voulez, en lisant l'entretien que le président de la République a accordé à deux économistes sur la nouvelle situation de l'Europe, etc., et de l'OTAN et mondiale, et de la géopolitique mondiale, que je trouvais intéressante comme analyse, avec une certaine hauteur de vue, etc. Mais il n'y avait rien sur la transition écologique pour l'Europe. De la part du président de la République, qui s'était positionné il y a 18 mois comme le champion de cette affaire. Comment peut-il analyser et rendre compte de devenir de l'Europe, aujourd'hui qui doit être renouvelée, qui ne peut plus être seulement économique, etc., sans mentionner la transition écologique comme un projet européen majeur qui doit unifier maintenant la direction du futur.
Alors qu'on explique qu'à la Commission, à Bruxelles, c'est le cœur de la politique à venir. Il y a quand même effectivement un schisme là qui est étonnant, qu'il faut interroger. Amidaan, Marc-Antoine Almasséga, on est avec vous, on parle aujourd'hui du climat de cette COP25. On va parler tout de suite du système de pertes et préjudices qui a été élaboré il y a quelques années par le mécanisme de Varsovie, qui doit répondre à une injustice flagrante, qui est celle que les pays du Sud, les moins pollueurs, sont aussi les plus touchés par le dérèglement climatique, dont les pays du Nord sont évidemment les principaux responsables. C'est particulièrement criant pour ce qui est du continent africain, qui est responsable, rappelons-le peut-être, de seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant en première ligne face à ces aléas climatiques. Alors comment faire face à cette injustice? Où en sommes-nous de ce mécanisme dit de pertes et préjudices? Et puis plus globalement, comment est-ce qu'en Afrique on fait entendre sa voix, justement pour défendre ses intérêts au sein de ces grandes messes diplomatiques sur le climat? Aïssata Oudiouf, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct depuis Madrid. Vous êtes responsable des politiques internationales et du plaidoyer climat au sein de l'ONG internationale Enda Energy, qui est basée au Sénégal, qui lutte pour l'accès aux services énergétiques. On avait eu l'occasion d'ailleurs de se croiser à Aïssata Oudiouf il y a quelques années lors de la COP21, qu'on avait dit historique. L'un des enjeux à Aïssata Oudiouf de cette COP25, c'est la révision du fameux mécanisme de pertes et préjudices. Jusqu'ici, j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, mais que en réalité, les discussions n'avaient pas beaucoup avancé. Là, les ministres et présidents commencent à arriver. Est-ce que les choses s'accélèrent? Est-ce qu'on voit un peu se dessiner des solutions sur ce sujet-là, Aïssata Oudiouf?
Je voulais juste revenir très peu sur le slogan de cette COP25 qui était le temps de l'action. Je pense qu'à 24 heures de la fin, le ressenti que nous avons, c'est que cette COP25-là avance très lentement sur des questions importantes comme la question des pertes et préjudices. Comme vous l'avez rappelé, c'est important durant cette COP25 de réviser le mécanisme de Varsovie donc qui est en place depuis 2013, notamment sur le soutien financier que les pays développés devaient apporter aux pays qui sont fortement exposés aux impacts du changement climatique. Donc à 24 heures de la fin, avec la présence des ministres, on se dit que voilà, on n'avance pas. Les pays développés ne sont pas prêts à mettre sur la table l'appui nécessaire en termes financiers pour appuyer ces pays qui font face à ces pertes et préjudices et qui n'ont pas aujourd'hui les moyens technologiques et les moyens financiers pour y faire face.
Qu'est-ce qui bloque?
Ce qui bloque, c'est en fait les pays en développement du monde, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pertes et préjudices, nous sommes au-delà de l'adaptation. Donc ce sont des financements additionnels dont nous avons besoin et qu'aujourd'hui, à l'état actuel des négociations, les pays développés ne sont pas prêts à mettre en place.
Tous ou certains?
La majorité des pays, pays développés, et on voit un peu le manque de leadership de l'Europe sur la question des pertes et préjudices. Nous savons que dans les négociations aujourd'hui, il y a les États-Unis, il y a l'Australie, etc., qui bloquent vraiment ces négociations. et en même temps, on ne voit pas ce leadership européen-là pour nous permettre d'avancer et d'avoir ce soutien financier dont les pays les plus vulnérables ont aujourd'hui tant besoin pour faire face à ces pertes et préjudices.
Vous parlez des États-Unis, ça veut dire que bien que sortis officiellement de l'accord de Paris, on continue de participer à cette arène et d'essayer d'influencer pour protéger ses intérêts.
Et les États-Unis sont encore autour de la table et je peux vous dire, ils influencent négativement ces négociations-là et ne permettent pas d'avancer positivement et d'avoir des solutions concrètes pour faire face au réchauffement climatique.
Il y a un problème, Aïssatou Diouf, qu'on évoque depuis très très longtemps, c'est que et qui est dénoncé par les pays africains en particulier, c'est que il y a une très large part quand même des financements qui va à la question de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qui concerne très essentiellement des pays du Nord, des pays riches, et beaucoup moins va à l'adaptation au dérèglement climatique, où là l'Afrique est particulièrement concernée. Est-ce que cette injustice-là, vous avez le sentiment que au-delà de la question du financement, mais au moins sur l'injustice même, sur le principe de cette injustice, est-ce que vous avez le sentiment que les pays africains sont un peu mieux entendus qu'avant? Ou finalement, c'est un argument qui ne fait toujours pas mouche?
Je pense que le discours politique a évolué depuis la COP21. Et quand on entend les politiques parler, notamment ceux des pays développés, ils reconnaissent aujourd'hui qu'il devrait y avoir beaucoup plus de financement pour l'adaptation, pour appuyer les pays en développement, parce qu'on l'a vu ces dernières années, le changement climatique touche encore plus lourdement les pays en développement, notamment les pays africains. On a vu le cas de la Mozambique, on a vu le week-end passé en Ouganda, les inondations, etc. Donc au niveau du discours politique, je pense qu'il y a eu une évolution. Il y a une reconnaissance qu'aujourd'hui, financer l'adaptation dans les pays en développement devient urgent. Mais au-delà de cette reconnaissance politique-là, les pays africains ont besoin de faire de la planification sur le long terme. Faire de la planification sur le long terme demande à savoir, voilà, dans les 5-10 prochaines années, de combien on aura à disposition pour faire cette planification-là, pour mieux intégrer le changement climatique dans la planification de notre développement. Donc aujourd'hui, on sait que voilà, c'est très difficile durant cette COP-là d'entamer la discussion sur les financements de long terme, notamment le financement de l'adaptation, mais aussi de l'atténuation, parce qu'on le sait, aujourd'hui, les pays africains ont besoin d'enclencher un autre modèle de développement basé sur le développement des énergies renouvelables. Donc pour nous, il est important et urgent de continuer à parler d'adaptation, mais il est également important d'appuyer les pays africains à avoir un système de développement sobre en carbone.
Encore un petit mot à Aïssatou Diouf, et puis ensuite je vais faire réagir nos invités ici, mais compte tenu justement de cette difficulté à faire avancer ce dossier dans l'arène onusienne, à cette COP, est-ce que du côté des pays africains, on n'est pas en train de se forger la conviction qu'au fond, abandonnons cette idée d'avancer dans ce cadre-là et essayons de réfléchir à notre propre développement en dehors de ce cadre, donc avec des outils de financement, avec des projets de planification indépendants. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à émerger?
Je pense qu'aussi bien au niveau politique qu'au niveau des citoyens, ça émerge. Les citoyens africains se disent d'année en année, de COP en COP, on a très peu de résultats qui nous permettent aujourd'hui de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, qu'on doit avoir un agenda parallèle. Et je pense qu'on y travaille déjà au niveau africain. Il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, il y a une initiative africaine sur l'adaptation. Donc les États essaient de réfléchir sur comment trouver des alternatives. Par contre, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons qu'on a encore besoin de ce processus onusien, parce que c'est ce processus qui permet aujourd'hui d'avoir autour d'une même table le Sénégal, la Gambie, les États-Unis et la France pour discuter d'un enjeu mondial. Donc aujourd'hui, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons nous battre pour que ce processus onusien puisse arriver à délivrer des résultats pour répondre durablement aux questions climatiques, mais également c'est une question de justice climatique à notre niveau. Donc pour nous, c'est un processus qui est important et qu'on doit se battre davantage pour que les États qui arrivent ici, dans le cadre des négociations, arrivent avec beaucoup plus d'engagement et avec beaucoup plus d'actions concrètes pour pouvoir répondre efficacement à ce réchauffement climatique.
Voilà, on entend que malgré les difficultés, vous pensez que c'est un cadre qui est nécessaire. En tout cas, c'est la vision qu'on porte du côté de l'Afrique. Amida, peut-être une réaction. En 2015, vous aviez écrit un article intitulé, je cite, « La gouvernance climatique onusienne, un cadre à sauvegarder, transformer ou faire exploser ». Du côté de l'Afrique, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le sauvegarder, peut-être le transformer, mais peut-être le sauvegarder.
Je répondais déjà dans ce papier que les pays en développement d'Afrique et puis plus généralement pauvres, les plus vulnérables, eh bien, sont très attachés à ce cadre, parce que d'abord, c'est un pays, une voix, ils ont leur mot à dire, voilà, ils existent. Et puis, d'autre part, Moi, je pense que de façon... Donc, ils ont sauvé le processus. Après, par exemple, l'échec de Copenhague, c'est eux qui ont voulu que ça se prolonge, etc. Ils y sont très attachés. Maintenant, le processus perte et préjudice, enfin, la disposition dont parlait Madame...
Diouf.
Oui, Madame Diouf. Eh bien, ça a été... C'est très, très tardif. Hein. C'est Varsovie en 2014. Oui. Donc, juste avant l'accord de Paris. Donc, c'est pas quelque chose qui est... Ça a toujours été extrêmement réticent. D'abord, on sait très bien que, par exemple, les pertes et préjudices que subit un pays, déjà pour les attribuer au changement climatique de façon claire, pour des raisons scientifiques, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Les scientifiques travaillent sur ces questions et on sait, bon, globalement, on sait bien que la plupart des événements extrêmes, etc., statistiquement, c'est, mais il y a toujours des arguties juridiques pour contester ce problème, etc. Et donc, de fait, deuxième volet de la situation, c'est la question des finances. Maintenant, Marc-Antoine a dit il y a beaucoup d'argent, il va en avoir beaucoup, etc. Oui, mais cet argent, c'est pour le développement des pays avancés. Ouais. Et leur éventuellement adaptation aux enjeux, etc., aux nouvelles conditions matérielles et techniques. Mais pour aider les pays en développement à se développer autrement, ça a toujours été très difficile. Bon, maintenant, regardons l'exemple. Juste, je prends l'exemple du Maroc. Le Maroc vient d'inaugurer des centrales solaires, des centrales éoliennes. Enfin, a pris un certain tournant. Il l'a fait avec une aide financière, des coopérations avec certains pays, mais principalement sur ses propres forces.
Marc-Antoine Aïmazéga, en guise de conclusion, on arrive presque au terme de mission.
Très rapidement, l'Afrique subsaharienne, c'est 3% des émissions mondiales de CO2. C'est à peu près 18% de la population mondiale. Et c'est les capacités électriques installées de l'État de New York. Donc on mesure bien déjà un premier problème. Et vous l'avez dit, Ami, ce sera l'un des continents qui sera le plus touché, si c'était le plus touché, par le changement climatique. Et la question du financement est essentielle. Et il y a, par exemple, l'Union européenne a plus de 70 milliards d'aides au développement cumulées, qui va être davantage orientée vers l'adaptation, etc. Mais il y a un enjeu essentiel, c'est que la plupart de ces pays doivent faire d'immenses progrès pour améliorer leur cadre réglementaire, pour mettre en place un cadre d'état de droit qui permette les investissements.
Un grand merci à nos invités de nous avoir éclairés ce matin sur ces enjeux de la COP25. Amidan, grand merci. Marc-Antoine Aïmazéga, grand merci également. On mettra évidemment la référence de vos ouvrages, vos articles sur la page de Culture Monde. 11h53, c'est Brice Couturier. Alors aujourd'hui, pas avec nous en studio malheureusement pour des problèmes de transport, mais quand même par téléphone.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice, est-ce que vous m'entendez ?
Bonjour Florian.
Bonjour, ça y est, je vous entends. Bonjour Brice, merci Bonjour beaucoup Florian. D'être avec nous ce matin par téléphone. Alors Brice, personne ne nie plus que nos démocraties connaissent une nouvelle crise. C'est sur ces causes que les avis divergent, Brice.
Eh oui, il y a un désenchantement envers nos démocraties représentatives et libérales. Une democratic fatigue, comme on dit en anglais. C'est l'expression qu'emploie notamment Harold James. Cet historien britannique enseigne à Princeton aux États-Unis, mais c'est l'un des meilleurs observateurs de la scène politique européenne et comme beaucoup d'autres analystes. Il a fait depuis longtemps le constat d'un dysfonctionnement général de nos démocraties occidentales. Mais il tente aussi de proposer des remèdes à ce désenchantement. Et c'est ce qu'il fait ce mois-ci dans un article publié sur le site Project Syndicate, titré « What's behind the crisis of democracy ? Qu'y a-t-il derrière la crise de la démocratie ?» Or, cette crise recouvre aux yeux de Harold James deux dimensions différentes. Primo, les gens, les électeurs, les peuples éprouvent depuis déjà longtemps le sentiment que leur démocratie ne fonctionne pas dans le sens de leurs intérêts, qu'ils sont mal ou insuffisamment représentés. Secundo, la polarisation des opinions et l'usure des systèmes institutionnels et partisans rend de plus en plus d'États ingouvernables. Prenez le cas de l'Espagne ou d'Israël où l'on vote tout le temps. Les électeurs semblent incapables de désigner des majorités claires et du coup, ces pays démocratiques sont affectés d'une crise de gouvernance qui les affaiblit. Le risque alors est que la démocratie soit perçue comme le régime du surplace, alors que les États autoritaires, dirigés par des autocrates comme Poutine, Erdogan ou Modi, apparaissent eux comme prompts à la manœuvre et mieux aptes à faire face à des situations nouvelles. Les vieux partis de gouvernement, de leur côté, donnent des signes d'épuisement. Ils paraissent incapables de répondre aux défis de l'heure. Leur horloge semble en retard d'un moment historique. Leur logiciel aurait besoin d'une remise à jour et cela se traduit par une érosion électorale particulièrement visible en France et en Allemagne.
Et votre professeur d'histoire, Brice, remonte loin dans le passé pour trouver des explications.
Oui, parce que la démocratie telle qu'elle s'est imposée dans plusieurs pays après la Seconde Guerre mondiale, rappelle Harold James, a été souvent conçue avec d'importantes limitations, en particulier dans les pays vaincus comme l'Allemagne ou le Japon. Leurs règles de fonctionnement ont été imaginées par les puissances victorieuses alors, dans le but plus ou moins avoué de limiter la souveraineté des peuples dont on se méfiait. Tout un système de contrôle de constitutionnalité est censé tempérer les mouvements d'humeur populaire. En outre, des institutions internationales et puis des accords internationaux sont venus par la suite rogner davantage encore la liberté de manœuvre et de décision des gouvernements et des parlements. La souveraineté effective des peuples est donc de plus en plus restreinte, tant par l'Union européenne que par l'OMC ou d'autres agences et des juges internationaux. Eh bien, ces arrangements, selon Harold James, ont été longtemps source d'apaisement entre les États, de stabilité, de croissance, de succès. Mais on ne peut laisser plus longtemps aujourd'hui entendre aux gens que leur vote n'est pas important et que, je le cite, « la modernité exige un gouvernement de modérer auto-limité au profit de l'immobilité ». Alors même que l'histoire s'est remise en marche en mode accéléré, la démocratie ne peut pas demeurer plus longtemps une léthargocratie, comme ils disent. Alors, pour compenser ces abandons de souveraineté nationale, il faudrait donc donner aux gens de nouvelles occasions de décider par eux-mêmes. Et bien sûr, le numérique en est le moyen idéal. Les questions d'intérêt local, en particulier, devraient être décidées dorénavant localement et par référendum. La proclamation publiée ce mois-ci dans Prospect, une revue anglaise par une femme politique britannique de premier plan, Justine Greening, va exactement dans le même sens. Elle était députée conservatrice depuis 2005. Elle a exercé de nombreuses responsabilités ministérielles. Et bien aujourd'hui, elle écrit « Je quitte le Game of Thrones parlementaire pour aider à la constitution d'une coalition extra-parlementaire qui échappe au blocage de la politique partisane décidément dysfonctionnelle. » Du système partisan britannique, elle écrit « C'est un produit périmé, vidé de l'intérieur. » Et bien son combat à Justin Greening, c'est celui de la mobilité sociale. Elle a donc décidé de travailler localement avec les universités et les entreprises afin de favoriser l'apprentissage et le tutorat. Obtenir que le Parlement adopte une loi sur ce sujet et que le gouvernement mette en place les réformes nécessaires, dit-il, prendrait des années. Eh bien, le temps presse. Je quitte la politique pour faire vraiment de la politique, écrit-elle, afin de rester fidèle aux valeurs qu'elle estime celles du Parti conservateur et qu'elle résume en trois mots. Aspiration, effort et récompense.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. On peut retrouver évidemment sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.